Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Laura. Savez-vous que derrière chaque établissement de soins se cache une armée d'architectes hospitaliers et de programmistes? Non? Eh bien aujourd'hui, Laura nous dit tout, de l'ergonomie des salles de soins, des circuits propres et sales, en passant par les normes de construction. Bonne écoute! Bonjour Laura!
Bonjour Marielle!
Laura, je suis ravie de te recevoir à mon micro de bon matin, pour que tu me parles un petit peu de toi, de ton métier. Alors c'est toi qui m'as contactée sur Instagram, je crois.
Exactement,
bien.
Exactement, oui.
Je crois que ça fait quelques mois, mais j'ai mis un peu de temps à revenir vers toi. Je suis très curieuse d'en savoir davantage sur ton métier qui sort un petit peu des profils que j'ai pu présenter sur le podcast ces dernières semaines. Et puis, pour démarrer, je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent.
Merci. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Laura, j'ai 27 ans. Je suis mariée depuis 6 mois aujourd'hui avec Sébastien qui partage ma vie depuis 13 ans. Donc vraiment un amour de jeunesse.
Oh ouais, en effet.
Ouais, j'aime voyager, faire du sport, et puis depuis quelques semaines, on a lancé une petite marque de pâte à tartiner sans sucre et sans huile de palme avec mon chéri, voilà, en dehors de nos activités. Voilà, pour un peu diversifier nos passions.
Oh, génial. On mettra tout ça dans la description du podcast hein,
si ça intéresse. Pour les gourmands.
Exactement. Et alors raconte-nous ce que tu fais dans la vie.
Donc j'ai une formation d'architecte, donc en fait on devient architecte en ayant un diplôme d'architecte d'État en 5 ans. Donc on entre dans les écoles d'architecture le plus souvent sur concours, avec un cycle du coup licence-master. Donc en bout de 5 ans on devient architecte diplômé d'État et on rajoute une 6e année qui s'appelle l'HMOMP. Je recommence, HMOMP. Avant c'était l'ancien DPLG, donc pour pouvoir monter son agence. Donc c'est une année un petit peu particulière où on est à 100% en entreprise, donc dans une agence d'architecture, et avec des cours du soir pour apprendre tout ce qui est gestion, le droit, voilà, comment monter une entreprise. Je me suis donc très vite rapprochée de l'architecture hospitalière, qui est devenue un petit peu une passion. Dès la première année, en fait, on a des sujets relativement libres, mais en première année d'architecture, on apprend les bases, donc comment calculer un escalier, faire une petite habitation, donc c'est des sujets très théoriques et très rapides. Et puis ensuite, au fil du temps, on a des sujets un peu libres où on peut choisir un thème. Et en fait, quelqu'un de ma famille est tombé malade, et donc j'ai découvert le monde hospitalier comme ça, en allant visiter l'hôpital. Et j'ai vu des choses pas très chouettes, voilà, des endroits pas très colorés, sans lumière naturelle, vraiment presque glauques. Et je me suis dit, mais ces gens qui souffrent, ils ont d'autres choses à penser qu'une architecture, pas très conviviale. Et je me suis dit, mais comment je peux mettre mon savoir et mes premières connaissances au service de gens, qui vivent une épreuve difficile. Donc voilà, j'ai pris un chemin à 90 degrés et j'ai orienté ma pratique vers la santé. Donc toujours en choisissant des projets, quand c'était des projets libres, des projets de santé, en faisant des stages aussi dans des agences spécialisées. Et voilà, c'est devenu vraiment une passion. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup de ferveur et de conviction personnelle. Et voilà, donc maintenant je suis architecte hospitalière. Même si c'est pas un diplôme qu'on acquiert à la fin de sa formation, on devient architecte comme tout, mais au fil du temps, en se spécialisant, on peut dire qu'on est architecte hospitalier. C'est un monde très petit, même maintenant je recroise beaucoup les mêmes personnes, c'est vraiment une niche, l'architecture de santé.
Ah oui, c'est vrai, d'accord.
Donc on recroise vraiment les mêmes personnes, et d'ailleurs moi j'ai eu du travail presque un an avant d'être diplômée, parce que justement à une conférence spécialisée on est venu me chercher, donc c'est ça qui est très chouette.
Tellement il y a de besoins.
Il y a de besoins et il y a peu de gens compétents, compétents dans ce sujet, j'entends. Donc c'est ça qui est chouette, parce que même maintenant où je suis un petit peu de l'autre côté, on va en parler, en maîtrise d'ouvrage, c'est ça qui est bien, on retrouve les mêmes. Et surtout des gens pour qui j'ai travaillé, maintenant je suis de l'autre côté, donc c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est génial cette histoire que tu racontes, d'être rentrée dans un lieu, en tout cas de soins, et de t'être dit, mais c'est tellement sombre, c'est les couleurs, le choix des matériaux. J'imagine que t'as un regard tout de suite quand tu rentres dans n'importe quel endroit qui est radicalement différent du mien, par exemple.
et de t'être dit c'est pas possible, on peut pas prendre en charge des patients ici dans un endroit qui est d'une tristesse absolue quoi.
C'est ça, je voulais pas qu'on puisse se dire bah voilà, déjà je suis malade et en plus je dois subir une ambiance un peu morose. Non, en fait, chaque personne est en droit d'être soignée dans de très bonnes conditions et c'est pour ça que je me bats au quotidien, au moins aux parties de l'architecture. Après, les soins, chacun son job.
Ah bah chacun son domaine. Alors, quand on parle d'un projet pour... Alors, on va prendre un exemple concret pour... parce que j'imagine que ton domaine de compétence, il est immense, mais on va dire, voilà, dans une ville donnée, il y a un hôpital qui est construit ou une extension d'un hôpital. Comment se déroule le projet? Par où on démarre? Est-ce qu'on fait un appel d'offres? On trouve plusieurs cabinets d'architectes qui font une proposition? Est-ce qu'on discute du prix? Est-ce que c'est le prix qui prend le lead sur l'histoire? Ou est-ce qu'on regarde des projets plus ou moins audacieux? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule tout ça?
Du coup, il y a deux phases. Il y a vraiment la phase de programmation et la phase de projet architectural. Donc maintenant, j'ai travaillé plusieurs années en tant qu'architecte, donc maîtrise d'œuvre, donc l'architecte qui fait le projet. Mais maintenant, je suis de l'autre côté, donc en maîtrise d'ouvrage avec le client, dans la programmation hospitalière. Et en fait, la programmation part du projet médical. Donc les médecins créent ensemble un projet médical en disant, voilà, on veut accueillir 12 patients, on veut une grande salle de réunion, voilà, des petites données un peu simples. Et moi, je pars à la rencontre des équipes, enfin moi, les programmistes, on part à la rencontre des équipes pour recueillir leurs besoins. Donc on va faire plusieurs réunions par thématique, une thématique sur la chambre, sur les soins, sur la logistique et le stockage. Ça c'est très important,
ah ouais, c'est
donc je le place ici. Donc voilà, on fait vraiment des entretiens thématisés. Ensuite on fait une séance de restitution pour que chaque groupe ait un peu le même niveau d'information. Et de là on va avoir des données d'entrée, donc on va créer un tableau de surface et des schémas fonctionnels. Donc là où on demande l'avis entre guillemets aux équipes, c'est sur la fonctionnalité. Est-ce que ce local doit absolument être avec celui-là? Est-ce que la liaison verticale pour les ascenseurs correspond vraiment à la demande? Le circuit pour aller très vite au bloc, très vite en réa, voilà. Donc on essaye un peu de jouer avec les différents usages et les différents impondérables du projet. Et ensuite on traduit ça en faisabilité, donc c'est comme un plan d'architecte mais à une échelle un peu plus reculée. Donc je ne vais pas dessiner le lavabo, je ne vais pas dessiner les toilettes, mais je vais dessiner l'emplacement de la chambre. Et donc comme ça, dans un plan, on a des petites taches colorées qui correspondent aux services en fait. Donc là, on D'accord. aura les services avec les chambres, le poste de soins au milieu, panoramique, qui regarde les chambres, il y a un lave-bassin derrière, le poste de prescription. Et comme ça, on joue en fait avec les différents locaux pour avoir le projet plus ou moins final et arbitré dans ses grandes lignes. Donc de cette faisabilité, on arrive à avoir un plan relativement figé et ensuite on écrit un programme. Donc un programme, c'est un immense cahier des charges de tout ce qu'on s'est dit pendant les entretiens. Donc le projet médical retranscrit, les liaisons fonctionnelles à avoir absolument, la description de chaque local pièce par pièce. Donc c'est vraiment, nous on appelle ça programmiste, on est programmiste parce qu'on écrit des programmes, donc ça vient de là, mais c'est un énorme cahier des charges en fait dans un langage un peu plus courant.
Ça paraît incroyable et puis... j'essaye de voir ça d'un point de vue plus large, mais tous les axes auxquels il faut réfléchir, ça veut dire, peut-être que des personnes qui nous écoutent ne sont pas au courant de ça, mais il y a des circuits propres et des circuits
Exactement,
sales
oui.
à l'hôpital. Voilà, donc par exemple, quand on élimine des poubelles, des sacs de linge sale, on ne repasse pas par des circuits propres. Après, il faut penser à l'ergonomie, comme tu disais, mettre une salle de soins autour des chambres pour que les infirmiers n'aient pas à faire 4 km et les aides-soignants non plus pour traverser les services. Et il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser. C'est pas juste créer des espaces là où il y a de la place, là où il y a des prises électriques, des circuits d'eau, ou je sais pas.
Non, c'est très complexe. Il y a vraiment plusieurs flux. Il y a le flux évidemment patient, auquel on divise en flux patient debout, ambulant ou patient couché. C'est pas la même chose s'il est sur un brancard ou ses deux pieds, notamment pour aller en chirurgie ambulatoire. Donc il y a le parcours soignant, le flux soignant. Il y a le flux logistique, propre et sale, comme tu viens de le dire. Il y a le flux visiteur, famille. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et passionnant, c'est que c'est vraiment un jeu de taquin, de je monte, je dois pas croiser, enfin c'est vraiment un fil qu'on essaye de coudre au fil du projet et c'est ça qui est chouette, plus c'est complexe en fait, plus moi j'apprécie et c'est aussi pour ça que je me spécialise en hospitalier, il y a peut-être moins d'enjeux dans des programmes un peu plus simples de maisons individuelles ou d'équipements même culturels, quoique des fois avec les réserves c'est aussi très compliqué mais... Voilà, la santé, c'est pour ça que c'est très passionnant. Donc, une fois qu'on a rédigé ce programme, on l'accompagne de fiches techniques. Donc là, c'est la fiche d'identité de chaque local par local. Et là, justement, il y a toutes les caractéristiques. Le nombre de mètres carrés, la pression, la température, l'occultation, les prises, les arrivées de fluides. Enfin, voilà, c'est vraiment une fiche d'identité. Et donc, tout ça crée le programme et les fiches techniques. Et donc ensuite, il y a deux cas de figure. Soit l'hôpital a un accord cadre avec un architecte, donc c'est un appel d'offres auquel il répond pour 3 ans, et sous un certain montant de travaux, il va avoir tous les projets. Donc souvent, c'est peut-être 3 millions. Tous les petits, entre guillemets, travaux, 3 millions, il va les faire sans repasser par une mise en concurrence. Ou sinon, d'accord, il y a un concours. Et là, donc, c'est sur un marché d'appel d'offres public où chacun peut répondre en fonction de ses références et de sa capacité à répondre au projet. Et donc, nous, on donne justement le programme et les fiches techniques à l'architecte pour qu'il puisse faire au mieux pour retranscrire les besoins des médecins et toute la partie fonctionnelle dans son projet.
D'accord. Est-ce que ces deux axes, par exemple, pour un hôpital public, on passe plutôt par la première étape ou par le premier choix ou par le deuxième choix? Comment est-ce que le privé fonctionne davantage?
Il me semble que le privé n'est pas obligé de faire un concours. Donc il peut choisir directement ses architectes. Voilà, sachant qu'un hôpital, c'est toujours beaucoup d'investissements, donc on prend rarement des petites pointures, enfin des petits architectes arrivés sur le marché. Donc c'est pour ça aussi que le milieu est très petit, c'est souvent des très grosses agences, très spécialisées. Parce qu'en fait, entre le départ, donc entre mes premiers entretiens de récolte des besoins avec les médecins et la livraison du chantier, il peut y avoir 10 ans.
Que moi,
mon travail, on va dire qu'on va dire, c'est 6 mois, 1 an. Entre les premiers entretiens, les faisabilités, le programme V1, V2, V3, les fiches techniques V1, V2, V3, et on stabilise. On lance le concours d'architecture. Donc il y a les procédures réglementaires, donc il y a 2 mois par exemple pour lancer l'appel d'offres sur la plateforme. Puis il y a le concours qui peut durer 6 mois, 1 an. Quoique moi j'ai travaillé, donc quand j'étais architecte sur l'hôpital de Rennes, ça a duré 1 an et demi. Pour perdre au final, donc super.
Oh là là, c'est frustrant ça.
C'est frustrant. Bah, tous les jours, pendant 1 an et demi pour perdre, c'est vrai que c'est difficile pour les agences de gérer ça. Donc il y a ce temps-là. Et ensuite, il y a 3 à 4 ans d'études. Donc parce que les études, il y a donc la première phase, c'est l'APS, donc l'avant-projet sommaire, puis l'APD, l'avant-projet définitif, puis le permis de construire. Enfin voilà, il y a plusieurs étapes. Ensuite, on lance la consultation des entreprises pour faire le chantier. Puis après, il y a 4 ans de chantier. Donc en fait, 4 plus 4 plus 2 plus 1, bah, on arrive très vite aux 10 ans. C'est surtout ça qui est difficile à anticiper, c'est qu'en 10 ans, la médecine fait énormément de progrès. Je pense par exemple au robot. On nous demande beaucoup de blocs opératoires pour mettre un robot, mais le robot d'aujourd'hui et le robot dans 10 ans, il n'aura pas du tout la même taille, pas du tout la même forme, les dimensions, tout va changer. Et du coup, c'est pour ça que des fois, on a des réflexions. Bah, ça n'a pas été pensé en amont. Dis donc, c'est pas du tout adapté. Ouais, mais il y a 10 ans, c'était adapté.
Ah ouais,
c'est et c'est ça qui est difficile.
Différent. Moi, le fameux robot, donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un... Alors, robot, le mot est bien choisi, parce que vraiment, c'est un robot qui vient opérer des patients avec
Qui assiste.
Oui, qui assiste. Alors, le geste sera toujours fait par un chirurgien, mais il est dans une sorte de cabine un petit peu éloignée du robot. Donc, le chirurgien peut être à... parfois à 3, 4, 5 mètres du patient avec un système de pinces ergonomiques qui reproduit exactement le mouvement de l'humain mais sans tremblement, sans hésitation, etc. Avec des sortes de grands bras articulés qui viennent donc à l'intérieur du patient sous forme de célioscopie avec des petits trous. Moi, pour avoir vu 2 robots différents, le premier pendant mes études, donc entre 2007 et 2010, et un actuellement à l'endroit où je travaille, mais il fait 2 fois, la taille, il est 2 fois moins gros, l'installation, et c'est vrai qu'elle est complètement, complètement différente. Moi, le premier que j'ai vu pendant mes études, mais... J'ai l'impression d'entrer dans je sais pas, une usine. C'était complètement immense. Bon, ça reste toujours assez gros. Mais oui, ça fait partie des choses, comme tu dis.
Comme les IRM, les scanners, tout ça évolue.
Ça évolue, oui.
Et des fois, il y a des problèmes même pour rentrer les équipements par le toit, où on se rend compte que le trou dans le toit n'est plus adapté. C'était quand j'étais en architecture. Bah, donc, il faut démonter une partie. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, toujours, on doit être dans l'anticipation, dans la projection. Et c'est vrai que c'est ça qui c'est stimulant. Mais des fois, voilà, c'est pour ça que les remarques des usagers sont toujours un peu différentes. Voilà, quand je dis que je suis architecte hospitalière, oui, mais pourquoi cet hôpital-là, je suis allée quand ma cousine a été... Enfin bon, non, mais en fait, si je n'y étais pas, c'est pas moi. Et puis voilà.
Et puis il y a 10 ans, c'était pas comme ça.
Non, mais c'est ça. Donc bon, des fois, on se décharge un peu en disant, bah oui, on peut pas tout faire. C'est l'argent public, hein. Moi, je travaille avec 80% avec la PHP. Donc c'est pas Disney, tout est compté. Il y a des choses qui sont très rationalisées. On est aussi sur le territoire parisien, donc on a très peu de place. Et aujourd'hui, on reconstruit, on réhabilite beaucoup plus qu'on ne construit neuf. La proportion, c'est peut-être 65, 70 à 30% de construction neuve. Donc des hôpitaux qui sortent de terre, il y en a quand même beaucoup moins. Là, moi, je viens de rendre le programme du pôle femmes, mères, enfants à Vicennes, qui va être vraiment une très, très grande maternité sur l'hôpital d'Avicenne à Paris. Voilà, ça va sortir en partie de terre, mais c'est très rare. Y a beaucoup
On va plus rénover d'anciens hôpitaux.
Exactement, et c'est ça qui est très difficile, c'est que je suis déjà dans un périmètre très restreint entre les quatre murs, en fait, des façades. Et donc, on ne touche pas à la structure, on ne touche pas aux gaines. Donc, en fait, sur le plan, une fois qu'on a enlevé juste les cloisons, bah, des fois, c'est très difficile parce que les trames hospitalières sont très réglementées. Mmh. On considère qu'une chambre, c'est 3,60 de large et un bloc, 7,20 m. Donc, c'est 3,60 x 2. Et c'est comme ça que la trame, en fait, est faite. Et tu me disais justement un poteau dans ton unité de soins continue, mais c'est peut-être pour éviter qu'il y ait un poteau au bloc, en plein milieu du bloc.
Bien sûr, c'est ce que j'expliquais à Laura dans le... Alors, je ne sais plus si c'est dans le premier mail qu'on a échangé, mais moi, dans la salle de réveil dans laquelle je travaille, on a un poteau. J'aurais dû te faire une photo, parce que je pense que ça te ferait rire, qui est au milieu de la pièce. Alors, je pense que du coup, si vous êtes dans une bibliothèque, dans un supermarché, ou encore dans un supermarché, voilà, on déplace ne serait-ce que les denrées alimentaires, puis les caddies des clients. Mais je pense qu'on s'imagine qu'il n'y a pas de souci de faire le tour du poteau, mais moi, je déplace des lits toute la journée, enfin, moi et toutes mes collègues, hein, on déplace des lits, des patients, et donc on est sans cesse en train de faire le tour de ce poteau. Et j'ai eu un patient, quelques années en arrière, qui était allongé dans son lit, et qui a regardé ce poteau et qui m'a dit « Je suis architecte hospitalier et je ne comprends pas
qu'on vous ait laissé un... »
Il a dit « Je ne comprends pas, je vous présente mes excuses de la part de la profession. Je ne comprends pas qu'on vous ait laissé un poteau au milieu de cette pièce. » Et ça m'a fait rire. Je me suis dit « Ah oui, mais c'est vrai que lui, ben, il doit avoir un regard radicalement différent sur la situation. » Et oui, donc vous composez avec ce genre de choses, quoi, bien sûr.
La trame, en fait, elle, pour expliquer la structure, elle part du sous-sol, donc souvent du parking ou des locaux techniques, jusqu'au toit. Donc évidemment, il y a des espaces où ça va bien les arranger, donc on ne met pas de poteau en plein milieu du bloc, mais après, à contrario, des espaces qui vont un peu souffrir de cette structure. Et c'est ça toujours qu'on essaye, et c'est ce qui est difficile dans la réhabilitation de service, c'est que la trame est déjà là, on ne va pas bouger, on peut dévier une gaine ou deux maximum, mais on ne va pas bouger le poteau, parce que c'est la structure même de l'hôpital. Donc c'est ça qui est difficile. Et puis globalement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour le confort du patient, on a des ratios ANAP. Donc ANAP, c'est l'Agence Nationale d'Appui à la Performance, qui nous donne des ratios. Donc par exemple, maintenant, les nouvelles constructions, on part de 80% de chambres seules, 20% de chambres doubles. Donc c'est pour ça que quand je viens voir un médecin et qu'il nous explique son projet médical, quand il nous dit on veut accueillir 10 patients, et ben dans notre tête de programmiste, ça veut dire 8 chambres simples et une chambre double, pour à peu près faire ce ratio.
D'accord.
Ensuite, on applique des surfaces, donc une chambre simple, c'est 18, une chambre double, c'est 20, 23, 24, enfin, ça dépend. Et puis comme ça, voilà, on monte le tableau de surface, donc on est aussi appuyé par des ratios, on ne fait pas ce qu'on veut. Une chambre d'hospitalisation conventionnelle fait à peu près 45 mètres carrés. Alors, ça ne veut pas dire que la chambre fait 45 mètres carrés, ça veut dire que tout ce qui compose et ce qui entoure la chambre va faire 45 mètres carrés. Donc en fait, une chambre, ça veut dire donc l'espace de la chambre, un petit peu du poste de soins, un petit peu du lave-bassin, un petit peu de la salle de réunion qui va être disponible pour les médecins, un petit peu de la chambre de garde. Et donc en fait, de la surface globale qu'on obtient, on divise la surface globale par le nombre de chambres et on voit si on est un peu dans les ratios. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on est toujours en vérification, parce que les surfaces, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans l'hospitalier. Donc voilà, on est toujours obligé de faire des comparatifs de surface.
Quand vous rencontrez les équipes... en vue des projets. Tu parles des médecins, mais est-ce que vous rencontrez d'autres corps de métier?
Bien sûr, et c'est ça qui est très intéressant, on rencontre tous les corps de métier. Donc on essaye de, comme je te disais, de réunir les gens par thématique, mais on rencontre donc les cadres déjà, c'est qu'ils sont très importants, les cadres, les médecins, les infirmiers, les AS, les infirmières, les IBOD, enfin voilà, tous les corps de métier qui vont être touchés par la restructuration du service. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir la même considération pour l'agent hospitalier ou l'agent de ménage que les neurochirurgiens. Et d'ailleurs, c'est souvent les neurochirurgiens, je vais pas dire où, mais qui nous parlent très mal, en fait. Et que, voilà, je veux dire, nous, en fait, dans la programmation, on est vraiment là pour eux. Parce que je te dis, on est côté maîtrise d'ouvrage, donc côté client, et on est là pour eux, pour faire le plus beau projet. Et si on retranscrit pas bien leurs besoins, l'architecte ne fera pas bien le projet. Parce qu'on n'aura pas bien retranscrit ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc, s'ils veulent pas nous parler, s'ils ne veulent pas vraiment nous expliquer comment ils fonctionnent au quotidien, ça sera mal retranscrit, le projet sera pas adapté.
Genre un service nul.
Non, mais voilà. Donc, en fait, plus ils sont sincères, plus ils sont honnêtes et transparents dans leurs besoins, plus on arrivera à le retranscrire, plus les architectes, qui iront quand même voir les équipes au fil de la discussion, au fil du projet, pour les couleurs, pour les ajustements. Bon, ils n'auront pas le temps de faire tous ces entretiens, et c'est pas leur métier. Eux, voilà, ils ont aussi des problématiques de chantier, d'entreprise, c'est deux métiers différents. Mais à la fin de la programmation, il y a une autre partie qu'on fait aussi dans mon agence qui s'appelle l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, où là, on accompagne ensuite le client, donc l'hôpital, avec les architectes. Donc, on s'assure que le projet donc, de base est bien respecté, que les délais sont bien tenus, que les entreprises sont bien choisies, et ça peut aller jusqu'au chantier. Donc en fait, le programmiste peut aller vraiment du projet initial à la livraison du bâtiment. Donc c'est deux compétences un peu différentes, l'AMO, parce qu'il y a tout ce qui est réglementaire aussi qui rentre en compte. Donc ça, c'est une petite cellule dans notre grand cabinet de programmation. Mais voilà, on suit vraiment de A à Z le projet. Et c'est ça qui est chouette, et c'est une vraie richesse, je pense, d'avoir comme ça quelqu'un qui est fil conducteur. Et souvent, bah, les cadres changent, les médecins tournent, et nous, on est le témoin de tout ce qui s'est dit depuis le départ.
Puis c'est hyper épanouissant de suivre le truc du début à la fin. Enfin, j'imagine, tu vois le projet sortir de terre, c'est génial, quoi.
Oui.
Alors, j'ai entendu ce que tu disais sur le fait que le cahier des charges était très strict, ne serait-ce que pour des normes d'hygiène, de réglementation, d'ergonomie. Mais est-ce qu'en dehors de ça, toi, en tant qu'architecte ou en tant que programmiste, tu peux quand même apporter un peu ta touche personnelle, ta petite patte, est-ce que t'as quand même un choix qui est assez libre sur, je sais pas, les couleurs, les matériaux
On va prescrire en fait des grandes lignes, donc vraiment du fonctionnel, et après tout ce qui est les couleurs, ça sera à l'architecte de juger avec les équipes en les rencontrant dans un deuxième temps. Donc par exemple pour le salon des familles, on va dire que l'ambiance doit être chaleureuse et que l'acoustique doit être particulièrement bien traitée, parce que voilà, on sait que dans les salons des familles, il y a des fois des annonces aussi qui sont pénibles, donc pour pas gêner le reste du service. Donc nous, on va plutôt prescrire une ambiance chaleureuse, une acoustique travaillée, du mobilier pérenne et confortable, plutôt que du rose sur les murs. Ça viendra dans un deuxième temps avec les équipes. Pareil pour les faisabilités, des fois je vais très très loin dans le dessin du plan, jusqu'à dessiner vraiment, quand c'est une construction neuve, par exemple j'ai fait les soins intensifs de psychiatrie à Villejuif notamment, j'ai dessiné vraiment tout le plan, très très précisément avec les couloirs, l'articulation. Et en fait, ça, on peut pas le donner aux architectes. On efface notre dessin, on revient en arrière, sinon on brime l'architecte et il est plus dans sa création. Donc les équipes ont vu en fait ce qu'ils pouvaient attendre du projet d'architecture, mais nous, on revient en arrière et on fait en fait des schémas fonctionnels, des grosses patates de fonctionnement. Et après, c'est à lui d'interpréter et de se sentir libre de créer. Au final, on va tellement loin dans nos études qu'on se rend compte qu'entre le schéma fonctionnel et le plan, ben, c'est la même chose. Je veux dire, les répartitions sont au même endroit, donc c'est ça qui est plaisant aussi, c'est qu'on nous a écoutés. Mais tout ce qui est vraiment création architecturale, on ne peut pas brimer l'architecte. Et d'ailleurs, pour être programmiste, il ne faut pas forcément être architecte. Dans notre agence, on est environ 35 et on doit être 3 ou 4 architectes. Sinon, c'est des ingénieurs, des urbanistes, il y a du génie civil. Voilà, c'est vraiment plusieurs cordes à son arc.
Ah ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Donc vous avez tous un regard différent sur la situation, une façon de travailler qui est différente.
Exactement. Et c'est vrai que la casquette d'architecte rassure aussi beaucoup. Et c'est pour ça que je me présente souvent comme architecte programmiste. C'est que les gens se rassurent et disent « Ah, c'est bon, bon, elle va bien nous faire. » Bon, c'est pas ça là. Si elle n'est pas forcément un gage de réussite. Mais voilà, ça rassure beaucoup les gens. Et donc soit vraiment on est appelé pour une restructuration. En fait, il y a plusieurs casquettes et plusieurs échelles dans la programmation. Donc, soit c'est pour refaire un service, soit pour refaire ou créer un hôpital. Et il y a aussi le schéma directeur. Donc là, par exemple, j'ai travaillé à Lyon sur l'hôpital Édouard Herriot, qui est un peu configuré comme la Pitié-Salpêtrière. Donc, c'est plein de pavillons, c'est une trentaine de pavillons. Et donc, sur 2021-2031, on va dire, ben voilà, le pavillon A, ça va devenir les urgences. Le pavillon B, ça va devenir le dentaire. Enfin, voilà, on joue un peu avec tout pavillon. Donc ça a été un travail d'un an, super intéressant, avec une méthode de concertation qui s'appelle le Lean Design. L-E-A-N. Et en fait, on a réuni deux fois les 150 plus grands acteurs de l'hôpital, donc les chefs de service, les infirmières, les cadres. Et on a fait d'énormes séances de restitution. Donc la première avant Covid, donc dans un gymnase, où on a créé en fait plein d'ateliers de travail sur différents groupes. Et le second avec des dizaines de fenêtres Zoom pour tous travailler en même temps. Et ça a été vraiment formidable, une grande synergie. Et en fait, on stimule tous les gens, tous les acteurs, et même les gens qui partent à la retraite et qui ne verront jamais la suite, au moins sont impliqués. Donc là, à la suite de ça, on donne une sorte de plan du schéma directeur en disant, en donnant les différents axes. Et ensuite, on viendra travailler bâtiment par bâtiment le travail de programmation, comme je viens de te l'expliquer.
D'accord.
Mais on n'est pas obligé de gagner les deux. C'est-à-dire que là, nous, on a gagné le schéma directeur. de l'hôpital Édouard Herriot. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi gagné deux premiers pavillons pour l'instant. Ah, donc ce qu'on a programmé à la grande échelle, on vient avec les mêmes équipes le programmer plus en macro, voilà, en petite implantation.
Alors moi, j'étais à l'école d'infirmière juste en face de l'hôpital Édouard Herriot, qui était l'école Rockefeller.
Exactement.
Et alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'Édouard Herriot est monument historique. Où il y a
exactement, surtout que l'œuvre de Tony Garnier va rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ça nous pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des parties... Il y a des petites parties qu'on avait prévu de démolir ou de reconstruire, et il va falloir le faire passer à la DRAC. Donc la DRAC, c'est l'institution qui gère les monuments historiques et qui se porte garante de la... Voilà, du patrimoine, et c'est pas terminé, cette histoire.
Et alors, j'imagine la difficulté, parce que donc, pour avoir exercé dans... Alors, ou en tout cas, pour avoir vu plein d'établissements différents, entre mes stages, mes boulots, j'ai fait de l'intérim, etc., cet hôpital, il est particulièrement difficile, en tout cas de mon œil à moi, parce que donc, c'est tout constitué par petits pavillons, donc exactement, vraiment comme si on imaginait des petites maisons les unes à côté des autres, avec un sous-sol. Alors moi, pour y avoir été en tant qu'étudiante, en plus à une période où on est très vulnérable et puis on est assez stressé, une ville, le truc des croisements avec des feux rouges, j'ai vu des personnes
petits chariots.
Des petits chariots sur pneus avec un petit moteur électrique ou je sais pas, mais ouais, où j'avais l'impression que j'allais me faire couper en deux par le chariot de linge qui passait par là, où on emmenait un patient à la radiologie, je me suis perdue un nombre incalculable de fois dans ces sous-sols. Ouais. C'est un hôpital qui a quand même une structure qui est assez intrigante, j'imagine le travail pour vous derrière.
Et puis globalement, tous les hôpitaux pavillonnaires à la Pitié-Salpêtrière, c'est pareil. En fait, tout ce qu'on ne voit pas, pour ne pas engorger le rez-de-chaussée, tout se passe au sous-sol.
C'est ça, ouais, il y a une ville au sous-sol.
Et c'est ça qui est aussi challengeant, parce qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Il faut aussi penser aux liaisons souterraines.
Ouais, et puis pour faire en sorte que les patients qu'on est obligé de déplacer d'un service à l'autre ne sortent pas à l'extérieur. Alors, quand on est en plein hiver et qu'il fait moins 5 degrés, qu'on puisse tout faire par le sous-sol, enfin... Ouais, c'est un hôpital qui m'avait fascinée par sa construction et j'ai jamais revu ça derrière, mais voilà, tu vois, je savais pas qu'à Paris, à la Pitié, c'était le même fonctionnement, mais c'est vrai que c'est assez intriguant. Pour toi, quels sont les détails, les exigences, les normes les plus dures à suivre et à appliquer quand on pense à la création d'un bâtiment hospitalier, par exemple ?
Je pense que les normes d'accessibilité PMR, donc handicapées, enfin personne porteur de handicap, c'est quelque chose de très contraignant, notamment pour l'accès. Donc il faut une pente maximum à 5%. Donc 5%, ça veut dire que pour monter 5 mètres, il faut 100 mètres. Donc c'est quand même une sacrée pente. Il faut que les sanitaires soient accessibles aussi. Donc ça veut dire qu'il faut tracer un rond de 150 cm de diamètre pour que le fauteuil puisse tourner entre le lavabo, le sanitaire et la douche. La douche, il faut évidemment pas que ça soit des douches à l'italienne comme chez nous. Il faut que ça soit au même niveau, au nu du sol, pour pas qu'il y ait de bac à douche à enjamber. Mmh. Il faut que les ascenseurs soient à proximité. Enfin voilà, il y a tout un travail autour de l'accessibilité qui est important. Il faut bien rappeler que l'accessibilité handicapée, ce n'est pas juste les personnes en fauteuil roulant. Nous, demain, si on se casse une jambe et qu'on est en béquille, ou qu'on a une poussette, c'est pas mon cas, mais je pense que même je fais de la pédiatrie aussi. Voilà, les femmes qui viennent avec des poussettes, c'est très très contraignant. Donc éviter les marches, éviter les pentes trop fortes. Puis après, il y a tout ce qui est normes d'hygiène. Le respect du propre et du sale, le traitement de l'air. Les locaux techniques, ça on a tendance, et moi-même la première, j'oublie un peu les locaux techniques parce que c'est de la surface qu'il faut prendre sur le projet et c'est toujours plus plaisant de faire des grandes chambres plutôt que des petites avec des grands locaux techniques, mais c'est ce qui fait le cœur. Du projet, et des fois on peut pas tout mettre sous plafond, parce que sous plafond il y a aussi une ville dans la ville, hein. Il y a tous les réseaux locaux techniques pour le traitement d'air, mais voilà, ça c'est aussi très contraignant, les locaux techniques.
Est-ce que tu as un exemple d'installation en tête qui facilite la vie des soignants, et une installation à laquelle on pense pas forcément, par exemple quand on construit une maison, un appartement ou...
Il y a deux choses. Souvent, en entretien, on nous demande la paillasse. Donc, la paillasse, c'est une zone sèche ou humide avec un robinet pour préparer les soins en chambre. Et souvent, on nous les demande à côté de la fenêtre, donc au fond de la chambre. Et on arrête tout de suite les équipes en disant « Non, on va plutôt vous conseiller de vous le mettre en entrée de chambre. » Parce qu'en cas d'urgence, vous n'aurez pas forcément le temps d'aller au fond de la pièce, préparer vos soins et le redonner aux patients. Donc c'est pour ça que souvent les zones de soins, les paillasses, sont en entrée de chambre, vraiment à proximité de la porte, pour qu'on puisse intervenir en cas d'urgence. Et c'est pareil pour les portes, parce que là c'est vraiment un sujet que j'abordais hier, donc pour le coup c'est vraiment la réalité du terrain. On nous demande dans tous les services, dans tous les entretiens, des portes automatiques pour les chambres. Et en fait, une porte automatique ne va pas assez vite en cas d'urgence, notamment en réanimation.
Ah ouais.
Ça va vite, mais moins vite que l'humain. Et donc du
coup, vraiment de pousser une porte.
Voilà, donc on opte plutôt pour des portes avec aide à l'ouverture, parce que les portes sont très lourdes, parce que justement elles font aussi écran entre le sas et l'isolation thermique, acoustique et la pression de traitement d'air de la chambre et du couloir. Donc on aide plutôt à ouvrir plutôt qu'une porte automatique qui ne va pas assez vite en cas d'urgence.
Ah, c'est fou, j'aurais jamais pensé à quelque chose comme ça.
C'est pour ça qu'en réanimation, il y a souvent une porte automatique, une réelle porte automatique pour l'entrée du brancard, mais à côté, il y a un sas. Donc un sas où le personnel, enfin les gens donc valides, sur deux pieds, rentrent, ils peuvent se laver les mains, se mettre une surblouse, des surchaussures et rentrer. Donc là, en cas d'urgence, hop, il y a un deuxième accès à la chambre.
Et est-ce que à l'inverse, t'as un exemple, alors peut-être pas forcément quelque chose que t'as vécu en tant qu'architecte ou programmiste, mais quelque chose que t'as vu de tes yeux, une installation hyper mal pensée, ou avec le recul, tu t'es dit, non mais ça te paraissait peut-être bien à l'époque, mais en fait aujourd'hui c'est un enfer pour les soignants, pour la vie hospitalière en général.
Je pense justement au couloir. Aux couloirs qui sont des fois très courts, qui englobent ou pas les poteaux, les creux dans le sol. Voilà. Je pense que le couloir, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu, surtout pour la circulation et puis la distribution des pièces de part et d'autre. Donc je pense qu'il faut vraiment apporter une attention particulière au couloir, parce que c'est vraiment aussi le nerf de la guerre. Le soin passe pas dans le couloir, mais voilà, c'est un lieu qui est tellement utilisé, tellement fréquenté au quotidien, qu'il y a vraiment une attention particulière à apporter, je pense. Et à la bonne dimension, surtout. Mmh. Voilà, pour que deux brancards puissent se croiser et tout ça.
Alors, il y a une, j'allais dire une rumeur, je sais pas si c'est une rumeur, je sais pas si c'est une légende, mais à l'hôpital d'Annecy, donc là où j'habite, il y avait eu une erreur sur la commande des portes, des chambres, et je crois qu'elles n'ont pas été commandées à la bonne dimension, ce qui fait qu'un brancard pouvait passer, mais qu'un lit ne pouvait pas passer.
Oh là là.
Donc bien sûr, le problème a été réglé depuis.
Mais c'est tellement d'argent, une porte, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, c'est toujours ça.
J'imagine. Ouais. Et alors, je crois que voilà, les portes n'étaient pas à la bonne dimension. Alors voilà, je dis ça, je ne sais absolument pas si c'est une légende ou quelque chose qui s'est dit ou quoi, mais ça fait partie des choses. On se dit, oui, forcément, un brancard est beaucoup plus étroit qu'un lit, et les lits ne passaient pas dans les portes. Est-ce que tu as un projet de rêve, quelque chose que t'adorerais accomplir dans ta carrière?
Mon projet de rêve, déjà, c'est budget limité. Parce que j'ai beaucoup de mal à avoir un spectre financier quand il s'agit de l'hospitalier. Moi, je donne... toutes mes journées depuis un an et demi sont consacrées à la santé. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, tu vois, ton podcast, j'étais pas du tout obligée non plus de l'écouter. Enfin, voilà, ça aurait pu être qu'un métier, mais c'est beaucoup plus pour moi.
Ça se sent.
Oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, voilà, un budget illimité avec les services, vraiment de la petite enfance à la gériatrie, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais projet. Et tu vois, je suis en train de refaire la réanimation des grands brûlés à Trousseau. Ah. Et ça a été très difficile. C'est un des projets qui a été le plus difficile, pas autant au niveau de l'architecture, parce qu'on trouve toujours des solutions et que c'est mon métier. Mais je sais que j'avais écouté ton podcast une semaine avant. Je t'avais écrit d'ailleurs sur Instagram en disant, ça m'a bien aidé d'écouter ton podcast sur les grands brûlés, parce que c'est un sujet que j'appréhendais beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a bien préparée, parce qu'on visite évidemment les services, les réunions, on les fait dans les services, moi je vois des patients surtout en grande détresse, on va dire, parce qu'on est rarement appelé pour, enfin moi en tout cas je suis pas vraiment appelée pour des EHPAD ou du petit hospitalier, je suis appelée pour l'AREA, pour du bloc, pour des choses un peu hard, et j'arrive à avoir un filtre, voilà, je vois des gens mais je les oublie le soir, mais la réanimation pédiatrique... ça me fait un peu mal au cœur, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait partie de ces services qui nous marquent à vie, où je vois tout à fait, ouais.
En fait, en programmation, parce qu'on est... Enfin, même dans tous les métiers, on n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse à chaque fois. Et donc, on fait du benchmark. Donc, c'est-à-dire qu'on va visiter d'autres établissements pour un peu s'inspirer de ce qui s'est construit récemment. Donc, par exemple, pour les grands brûlés, je suis allée visiter l'hôpital de Percy, à Clamart, qui est un hôpital relativement récent. Construit neuf, hein. Donc c'est toute la différence de notre projet, parce que nous on est en réhabilitation, et voilà, c'était formidable, c'était des couloirs immenses, une logistique salle et propre incroyable, des chambres incroyables, et en fait quand je rentre au bureau, ça me fait mal au cœur de dessiner des pièces toutes étriquées, mais parce que j'ai pas le choix, je peux pas pousser les murs, et donc ça, j'ai visité ça, et puis de la psy à côté de Metz, où là ça a été un petit peu difficile, parce que pareil, première immersion. La psy, c'est quand même aussi un milieu pas instable, mais où on ne peut pas anticiper. Voilà, on ne peut pas anticiper en fait les réactions des patients, et c'est vrai que voilà, j'étais toujours un peu pas très sereine, mais c'était très intéressant, et je pense que là l'architecte a été nommé, il a commencé ses études, et je pense qu'il y aura un très bel hôpital à Villejuif psychiatrique. Voilà,
c'est ça qui est chouette. Et donc tu sillonnes la France hein, pour ouais, tous ces projets,
exactement.
C'est dingue. Hein.
Donc il y a beaucoup Paris quand même, donc, comme je te disais avec la PHP, mais donc il y a eu plusieurs projets à Lyon, on a été appelé aussi au Havre. Donc au Havre, ils avaient, c'était un peu différent, là on était un peu comme un expert envoyé par l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé. Ils avaient donc des projets de travaux et de restructuration, et nous on est venu donner notre avis sur ça. Donc on a fait un peu l'investigation de tout l'hôpital, on a mis en relation ce qu'on avait vu avec leur projet, puis on a dit ça oui, ça non. Enfin, en grande ligne, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que ça va dans le bon budget?
Ouais, c'est intéressant de prendre le problème dans l'autre sens, quoi. C'est intéressant. Ouais.
C'est ça, et là, on fait la même chose à Arras, où on est un peu comme expert architectural pour vraiment donner notre avis sur ce qui se passe.
Et pour les missions un peu de prospection, quand tu disais que tu te rendais dans des établissements pour t'en inspirer, entre guillemets, vous arrivez à communiquer avec les équipes en leur disant « Est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous ne trouvez pas adapté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ?»
Oui, et c'est tout l'enjeu en fait, de nos visites. C'est les médecins du service qu'on restructure qui rentrent en contact avec les médecins des services qu'on va visiter. Et donc, on est vraiment reçus donc, dans un premier temps avec les équipes qui nous disent « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, on aurait fait ça autrement ». Donc autant dans l'architecture que dans la pratique des soins. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que quand on est programmiste, on est... Bon, on ne devient pas médecin, mais on est obligé de se mettre tellement à la place des équipes médicales qu'on devient aussi source de « Ah mais attendez, ça j'ai entendu ça ici, ça se fait comme ça, peut-être que vous pourriez penser à ça, cette façon de faire et tout ». Et c'est ça qui est aussi intéressant. Il n'y a pas que l'architecture dans notre métier, il y a aussi beaucoup d'humains. Et ce que je dis souvent, c'est que l'architecture, c'est beaucoup de dessins. Et la programmation, c'est moins de dessins, mais beaucoup plus d'humains. Et en fait, en architecture, je sortais jamais de mon bureau. Je dessinais des plans de personnes plus haut, enfin au-dessus de moi, qui m'avaient donné les grandes lignes. Et là, c'est complètement l'inverse, en fait. On est tout de suite sur le terrain, tout de suite très pris au sérieux. Et c'est ça qui est très passionnant.
Écoute, c'est génial parce que moi j'ai l'impression que je découvre déjà un métier auquel vraiment objectivement et sincèrement je ne connaissais pas grand-chose, mais je trouve ça fascinant, ouais, le côté humain, comme tu disais, moi le métier, même le mot programmiste, je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait. Je suis ravie vraiment que tu aies pu partager tout ça, c'est passionnant.
Avec grand plaisir.
Et beau point d'orgue, comme tu dis, de ramener l'aspect humain à tout ça et... On voit que t'en as besoin et on voit que ça te passionne, c'est génial.
Il faut jamais oublier pour qui on construit. Et des fois, quand il y a des retards dans les plannings et tout ça, moi je suis là, mais n'oubliez pas que dans 3 ans, il y a déjà des listes d'attente en fait pour les patients et on se dépêche. Les formalités administratives, tout ça, les budgets, c'est une chose, mais il faut vraiment accélérer et n'oubliez pas qu'on construit pour des patients. Et c'est ça vraiment le moteur, c'est qu'on construit pour des gens, pour des humains. Et il ne faut pas l'oublier, on n'est pas juste là pour livrer 4 murs. C'est vraiment un travail engagé.
Ah ouais, c'est génial. Oh, Laura, merci beaucoup. C'était, vraiment trop intéressant.
Avec plaisir.
Pour moi, c'était fascinant, passionnant. Et j'espère, j'en suis certaine pour les gens qui nous écoutent, que c'était pareil. On va finir l'épisode par un petit portrait chinois. Alors, j'ai déjà un petit peu adapté les questions, puisque voilà, tu n'es pas soignante, mais j'ai quand même réussi à détourner un petit peu ça. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Mais justement, un accélérateur de temps. Un accélérateur ou un retardateur? Parce que on a beaucoup d'échéances très très rapides dans la production. On est souvent ce qu'on dit charrette, donc voilà, où on travaille un peu tard le soir et tout ça. Et à côté de ça, des fois, il y a des temporalités beaucoup plus longues d'instructions, de documents, de réunions, enfin voilà. Qu'on avance tous au même rythme pour le projet final, c'est ça qui serait chouette.
Est-ce que c'est un peu comme quand un particulier construit une maison, il y a un permis de construire avec des délais qui sont incompressibles?
Ah oui,
il y a ça, hein.
Ah, oui, ça c'est la deuxième phase, mais même nous, dans le programme, il faut qu'il soit validé, qu'il soit voté en copile, il y a les financements à trouver, enfin non, c'est un vrai travail aussi, dès maintenant. Et si l'argent n'est pas décelé maintenant, il ne sera pas débloqué après. Hein.
C'est sûr. La question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail?
Alors du coup, j'en avais noté 2. La première, c'était « je vous écoute » ou « racontez-moi ». Parce que comme je te disais, c'est beaucoup dans la transmission. Et mieux les équipes m'expliquent leur quotidien, leur façon de travailler, mieux j'arrive à le retranscrire, donc c'est ça. Et la deuxième, qui va sûrement beaucoup parler aux soignants, c'est « ne vous inquiétez pas, on va prévoir le nombre de prises
». C'est vrai qu'il nous en faut beaucoup. Hein.
Non, mais parce que c'est la phrase, le stockage et les prises, c'est tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment là le sujet numéro 1, les prises. Donc oui, les prises, on va y penser, on va le noter.
Moi, pour donner une petite idée, pour mes patients qui sont soit en soins intensifs, soit en salle de réveil, parce que c'est à peu près la même chose, au-dessus de chaque poste de mes patients, je crois que j'ai... Je voudrais pas dire de bêtises, je crois que j'ai 4 prises. Alors on va se dire, mais qu'est-ce que tu fais avec 4 prises?
Ça va vite.
Mais 4 prises, j'ai un scope sur une prise. Si j'ai un patient qui me dit, je vais charger mon téléphone, j'ai une prise. Un pouce seringue, j'ai une prise. Une pompe à perfusion, j'ai une quatrième prise. Et ça y est, elles sont déjà toutes occupées. Ouais. Donc ça va hyper vite.
Hein. Et tu sais que quand je me suis fait opérer il y a quelques années, donc je savais déjà cette problématique et j'avais amené une multiprise.
Alors, on a ça, mais on a tout un stock de multiprises, de rallonges, mais...
Mais les multiprises pourtant... sur les multiprises, on sait pas, c'est pas autorisé. Mais je le vois, mais je ferme les yeux.
Allez, j'ai rien vu. Mais c'est vrai qu'on est obligé. Et pourtant, objectivement, ça paraît assez confortable en termes de nombre de prises, mais non, il y en a vraiment jamais assez.
Jamais assez, ouais.
Question suivante, plutôt thé ou café?
Thé. Thé, tisane, vraiment, toute la journée. C'est mon petit bonheur. Ma boisson chaude, non, c'est très chouette.
Question suivante, plutôt casque de chantier ou talon aiguille?
Alors casque de chantier, pas vraiment, parce que quand je visite les établissements, ils sont pas encore rénovés. Talon aiguille, c'est pas trop moi, alors je vais dire bottine, un peu élégante, pour bien le présenter devant les médecins.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé ce métier, alors donc soit architecte hospitalier, soit programmiste, vers quelles études ou vers quel autre métier te serais-tu orientée?
Moi, je serais quand même partie en santé et je pense que j'aurais rêvé d'être sage-femme.
Ah ouais.
Non, la santé, c'est... Bon, peut-être plus maintenant, mais je me suis beaucoup posé la question. Est-ce que finalement, c'était pas peut-être ça, ma voie? Et je trouve qu'avec mon métier-là, j'exerce ça comme je l'entends, avec mes deux passions, l'architecture et la santé, et que je suis à ma place, je pense.
Ah, c'est génial. Laura, un grand merci. C'était passionnant de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Et j'espère que les gens en ont appris autant que moi, mais je n'en doute pas une seconde. C'était vraiment, vraiment fascinant tout ce que tu nous as raconté. Et puis, qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite? Un super projet. Qu'est-ce qui s'annonce?
Voilà, des super projets, de très beaux hôpitaux, des équipes passionnées, passionnantes. Et puis, voilà, beaucoup de bonheur et d'épanouissement professionnel, c'est important.
Bon, bah, moi, je te souhaite tout ça, en tout cas.
Merci beaucoup, Marielle.
Merci, Laura. À bientôt.
À bientôt.
Il est très frustrant pour moi de voir le nombre d'écoutes de ce podcast augmenter de jour en jour et de parvenir si difficilement à communiquer avec vous. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité et votre intérêt qui me vont droit au cœur. Si vous possédez un compte Instagram, je vous invite vivement à m'y rejoindre. Mon compte se nomme tout simplement @compressesparadrap.podcast. Je crée pour chaque épisode un post permanent qui me permet d'échanger avec vous en toute simplicité. Je vous y attends nombreux. À très bientôt !